Chapitre 4. Phyllis était fiancée. Chaque jour, Alexis arrivait avec quelques fleurs choisies par lui et passait plusieurs heures près d'elle. Il faisait de la musique, il causait sous l'œil satisfait de Madame Chardol. Ou bien tous les trois partaient dans la voiture d'Alexis pour passer la journée à Versailles, à Fontainebleau, à Chantilly. Phyllis se sentait très heureuse. La bonté d'Alexis, la douceur tendre de son regard quand il l'attachait sur elle, la pénétrait d'une émotion joyeuse. La perspective de vivre avec lui tous les jours de son existence la laissait sereine et confiante, car elle devinait en cette âme d'homme une délicatesse qui l'apparentait à la sienne et des principes fermes, sérieux, semblables à ceux dont on l'avait munie elle-même. Lui l'aimait avec toute la ferveur de son cœur resté pur. Il ne le lui avait pas dit encore, il enfermait dans le silence cet amour qui avait transformé sa vie, jusqu'alors confinée dans son affection fraternelle et dans la culture de l'art et des lettres. En écrivant à Whittle seulement, il s'est penché sur ce sujet. « Ah, mon ami, qu'il est délicieux d'aimer, comme j'aime cette petite Phyllis. Si tu la connaissais, tu me comprendrais. Rien n'est plus charmant, plus frais que cette âme de jeune fille. » Ma Phyllis est un petit objet très rare. Il fallait cela pour vaincre ma défiance à l'égard des femmes. A-t-elle pour toi le grand amour que tu mérites, me demandes-tu? Oh, mon ami, je n'ose prétendre à ce qu'elle m'aime jamais comme je l'aimerais, moi. Ce serait trop beau. Mais elle sera tendre et fidèle, cela je le sais, et déjà ainsi mon sort m'apparaît merveilleux. Elle est si jolie, ma Phyllis. Son teint à la souplesse neigeuse, des roses blanches qui couvrent la terrasse de la villa, ses yeux, d'un brun qui se dore parfois quand une clarté soudaine y passe, me font toujours penser à cette madone d'un peintre inconnu que nous avions découverte dans un vieux petit couvent près de Vérone. Te souviens-tu de ses yeux qui renfermaient tant de vie pure et profonde? Tu as dit, pauvre ami, il y avait 2 ans qu'elle t'avait quitté. Si j'étais encore capable d'être amoureux, je l'aurais été de ces yeux-là. Et moi, j'ai pensé, si je les rencontrais, ces yeux, je les aimerais. Eh bien, ce sont ceux de Phyllis, et je les aime passionnément. Quand viendras-tu connaître ta future sœur? Nous parlons sans cesse de toi, c'est notre plus fréquent sujet de conversation, et nous jouons tes heures en pensant à toi. Alexis disait vrai. Dans leurs entretiens, le nom de Whittle revenait sans cesse. Lui se complaisait à parler de ce frère si profondément chéri, elle ne se lassait pas de l'écouter. Comme elle lui demandait un jour si Whittle lui ressemblait, il répondit « Oui, comme la statue terminée ressemble à son ébauche. » Et il lui montra la photographie de son frère qu'il portait toujours sur lui. Phyllis vit un visage aux traits nets et fermes, à la bouche forte, bien dessinée. Les yeux, longs et très beaux, rêvaient à quelques souvenirs mélancoliques. Phyllis songea tout haut. « C'est un peu comme cela que je me le figurais. »« Vraiment, mais la photographie ne peut rendre le charme de cette physionomie, de tout l'être de Whittle, de son regard surtout. Vous verrez quand vous le connaîtrez, bientôt, je l'espère. » Phyllis, les yeux attachés sur la photographie, dit avec émotion « Je serais si heureuse d'être sa sœur !» Alexis se pencha, prit la main fine et y appuya ses lèvres. « Vous m'aiderez à l'entourer d'affection, nous lui ferons une place à notre foyer, Phyllis. » « Oh oui, oui, ne craignez rien, ce n'est pas moi qui vous séparerai. Votre frère sera le mien. » Elle ajouta, avec un regard de tendresse émue, « Il faut le lui dire dans votre prochaine lettre et l'assurer que je ferai tout mon possible pour vous rendre heureux, car il est peut-être inquiet à ce sujet. » Un sourire nuancé de malice entr'ouvrait les lèvres de Phyllis. Alexis dit tout bas, « Non, certes, car je lui ai dit ce que vous étiez, ma petite chérie. » Et il effleura d'un baiser le front de Phyllis sous l'œil indulgent de Madame Chardol. Maintenant, il accompagnait Phyllis chaque semaine quand elle allait jouer au tennis chez des amis de sa grand-tante qui habitait Bellevue. Tenant une promesse faite l'année précédente, Madame Chardol avait permis à sa petite nièce l'achat d'une voiture qui serait fort utile pendant leur séjour à la campagne et Alexis lui apprenait à conduire. Phyllis arrivait toute rose, les yeux brillants, à la Villa des Lauriers, et Marie-Louise Berquier, son amie, petite fille des maîtres du logis, disait avec émerveillement « Que tu es jolie, Phyllis, comme on voit que tu es heureuse !» En souriant, Phyllis répondait « Certes, je le suis. Comment serait-il autrement avec un fiancé tel que le mien ? Tu ne saurais imaginer sa bonté, sa délicatesse. Vraiment, il est une perfection. » À ces réunions d'après-midi, il y avait quelques jeunes gens, relations des petits-fils de M. et Mme Berquier. Phyllis les connaissait depuis l'enfance et il lui avait fait une cour discrète avant ses fiançailles. Il regardait d'un œil peu bienveillant cet étranger qui venait leur enlever une si charmante amie que plusieurs d'entre eux rêvaient de choisir pour femme. Cependant, il convenait bon gré mal gré qu'elle faisait là un beau mariage et que le fiancé n'était pas si mal, quoique trop âgé pour elle, déclaraient ces jeunes gens dont certains avaient l'âge de Phyllis. Un après-midi, Gérardine fit une apparition dans le jardin où Mme Berquier et Mme Chardol travaillaient, tandis que Marie-Louise et sa sœur Jeanne préparaient le goûter en attendant qu'une partie en cours fût terminée. Le colonel Pardeuil était un intime ami de Mme Berquier, mais sa petite fille ne se montrait guère à la Villa des Lauriers qu'une fois ou deux chaque année, ce milieu étant, disait-elle, vertueuse à faire frémir. Ces dames retinrent une grimace de contrariété. Gérardine leur était fort antipathique, mais elle pouvait difficilement ne pas la recevoir à cause du bon colonel, déjà si malheureux par le fait de l'éducation donnée à cette unique petite fille. Gérardine, en jupe rouge et pullover jaune et rouge, avec son visage très maquillé, sa désinvolture garçonnière, fut aussitôt une dissonance dans ce jardin paisible, près de ces jeunes filles en discrète robe claire qui versaient un thé parfumé dans des tasses empire héritées d'une aïeule. « Eh bien, il fit de toujours le parfait amour ?» demanda l'arrivante. Elle venait s'asseoir près de Mme Chardol et désignait Phyllis et Alexis encore sur le cours. « Toujours. Alexis est très épris de ma Phyllis. »« Et Phyllis ?»« Phyllis l'aime beaucoup, naturellement. C'est un être charmant, d'une bonté rare. Je n'aurais pu désirer mieux pour cet enfant. »« Et riche avec cela. Voilà qui est le principal. »« Non, pas le principal, du moins pour nous. » L'accent dont Mme Chardol souligna ces derniers mots fit s'entr'ouvrir en un sourire narquois les lèvres de Gérardine. « C'est à mon intention que vous dites cela. Oh, vous savez, je ne m'en formalise pas. J'ai mes idées, je vous laisse les vôtres, toutes pareilles à celles de mon grand-père. Je suppose qu'il vous a appris que je comptais épouser Jean-Louis Pommier. » Mme Chardol inclina affirmativement la tête. « Eh bien, je l'épouse uniquement pour la grosse fortune de ses parents, car c'est plutôt un imbécile, Jean-Louis. Oh, Gérardine !» Le rire de la jeune personne éclata devant la mine scandalisée des deux dames. « Je suis franche, je ne la fais pas au sentiment. C'est bon pour Phyllis, cela. Aussi, un Alexis Orbievis ne ferait-il pas mon affaire ?» La partie finie, Phyllis et son fiancé quittaient le cours et venaient vers le quinconce de marronnier où était disposée la table du goûter. Sur sa robe blanche, Phyllis venait de passer une petite veste grenat clair dont le voisinage avivait la délicatesse de son teint. Elle dit à mi-voix « Oh, quel ennui, Gérardine Pardeuil !» Ce pantin, c'est la petite fille du bon colonel. « Hélas oui, sa petite fille est son grand chagrin !» Gérardine accueillit aimablement les fiancés sans paraître remarquer la froideur d'Alexis et leur apprit qu'ils auraient sans doute le plaisir de la voir en Auvergne au mois de juillet, sa mère devant faire une saison à Vichy. « Les pommiers y seront aussi, voilà pourquoi j'accompagne maman. Après quoi, nous filerons tous sur la Baule. Pendant mon séjour à Vichy, j'irai voir grand-père et je passerai à la Barcelle pour vous dire bonjour. C'est au mois de juillet le mariage ?» « Probablement, dit Mme Chardol, il se fera tout simplement dans la petite église de notre village en présence de quelques intimes. Cela signifie-t-il que je n'y serai pas invitée ? S'il vous plaît d'y venir, Gérardine, nous accueillerons volontiers la petite fille de notre fidèle amie. » Gérardine rit de nouveau. « J'apprécie la distinction. Pour l'amour de mon grand-père, on me tolérera dans cette intimité. Le cher vieux en fera une maladie, par exemple. Pensez donc, quel scandale de me voir dans une réunion si convenable !» Alexis la considérait avec une curiosité mêlée de quelque mépris. C'était un genre de femme qu'il connaissait peu, n'ayant fréquenté que des milieux où la distinction, et en tout cas une certaine tenue morale, était de mise. Elle se moquait en ce moment, mais de quoi ? Évidemment, du genre si convenable, cher à son aïeul. Mais Alexis se demandait s'il n'existait pas aussi, dans ses propos, une sorte d'amère dérision s'adressant à elle-même. « Monsieur, votre frère viendra pour cette cérémonie ?» demanda Gérardine, s'adressant au jeune homme. « Certes, il compte même arriver dans les premiers jours de juillet, dès qu'il aura terminé son opéra. Nous logerons chez le colonel qui a bien voulu nous offrir l'hospitalité. « Ah, je vous verrai donc tous deux chez grand-père. Votre présence animera un peu la bicoque qui sent le moisi, au figuré sans temps, car la vieille Clémence l'aère consciencieusement tout l'hiver. » Le colonel Pardeuil a suffisamment d'esprit et de bonté pour rendre sa demeure attrayante, même sans notre présence, répliqua Alexis, non sans quelque sécheresse. Grand-père est un saint homme, monsieur Herbievix, mais moi, je suis une espèce de démon, et dès que nous sommes 5 minutes ensemble, une discussion éclate. Vous servirez de tampon, et par sa musique, votre frère adoucira les âmes. Elle le regardait avec une ironie où, cette fois encore, il crut saisir une vague tristesse. Un peu de pitié se glissa en lui. Le cynisme de Gérardine était-il surtout de surface ? Souffrait-elle, au fond, de n'être qu'une âme désaxée, cherchant à s'étourdir en de sots plaisirs ? Mais un instant après, une réflexion équivoque de Gérardine, un sarcasme lancé contre une personnalité vénérable, respectée de tous, ranimèrent l'antipathie première d'Alexis, et il songea, en regardant Phyllis, « Ah, ma petite Phyllis, comme vous me semblez plus fraîche encore, plus délicate d'âme et de visage, près de cette pauvre créature sans âge !»